Chapitre 4. L'âme considère les suites du péché originel. Chacun le sait. Par la chute originelle, tout homme a été blessé profondément. Mais cette blessure, peu d'esprits l'ont sondée. On ne voit pas assez quel genre de mal nous a causé le péché d'Adam. Cette blessure étant la cause de la répugnance instinctive que nous ressentons pour la mortification, c'est le moment de l'étudier, d'essayer d'en sonder la profondeur, d'en déterminer la malignité. L'homme ayant désobéi volontairement et pleinement à la loi de Dieu, ce Dieu offensé le punit, entre autres manières en permettant à toute créature de nuire à son corps. Depuis ce jour, la mort a mille moyens de le détruire, même par ce qui sert à entretenir sa vie. L'air consume, l'eau débilite, la terre appesantit, le feu énerve, le repos fatigue, le travail épuise, enfin tout s'acharne à nous détruire et à nous faire mourir. De là les maladies sans nombre, mystérieuses, indéfinissables. L'un est pris de douleurs pénétrantes qui le torturent jusqu'au fond de ses organes, l'autre d'insomnie cruelle qui l'irrite, l'accable et lui brûle le sang. Celui qui a démesurément faim veut manger démesurément. Celui qui a énormément soif veut boire sans mesure. Et si l'objet de ses désirs lui est refusé, il souffre, il se plaint, gémit. Ses cris touchent les cœurs. On cède enfin. On lui accorde par un excès de faiblesse et faute d'avoir conservé la justice originel tout ce qu'il demande par un excès de maladie. Ainsi s'explique la peine qu'il y a à refuser au fiévreux brûlant le verre d'eau qu'il demande par pitié. Ainsi aussi s'explique la répugnance que nous avons à mortifier nos mauvaises passions. Le péché originel nous a blessés. En ce sens, surtout que notre âme a perdu, avec la grâce, la force de refuser à la nature ce qu'elle réclame par concupiscence. Notre corps est devenu passionné pour le plaisir, nos yeux veulent tout voir, notre imagination ne sait plus se borner, et malheureusement notre volonté, trop sensible aux gémissements de la nature, ne sait plus rien lui refuser. Voyez une mère idolâtre de son enfant. Celui-ci demande-t-il une chose déraisonnable? Elle refuse une première fois, mais cela lui coûte. L'enfant pleure-t-il? Elle est vaincue, elle accorde tout. Voilà vis-à-vis de la pauvre nature notre volonté. Elle a les faiblesses d'une mère idolâtre et la nature déchue, celle d'un enfant gâté. Avant de considérer combien la faiblesse de notre volonté à réprimer les instincts mauvais est condamnable, continuons d'approfondir ce besoin déréglé de plaisir, d'honneur, d'argent qui nous tourmente. Car c'est bien là la blessure originelle qu'il faut penser et guérir de notre mieux. Quoi que vous soyez, le besoin de jouir vous travaille plus ou moins. Un spectacle enchanteur vous séduit, une harmonie vous captive, la beauté vous charme, la louange vous enivre, votre imagination vous trompe, de volontaires et trop chères illusions vous berce, tout vous attire, vous gagne et vous entraîne. De là un immense besoin de rassasier vos sens, votre imagination, votre cœur. Besoin qui, bien que naturel, n'est plus, depuis le péché originel, qu'un penchant déréglé. Reconnaissez d'abord cette concupiscence et dites-vous à vous-même, voilà l'ennemi, ou plutôt, voilà la maladie, la passion, la fièvre dans laquelle j'ai été engendré. Plus on contente la passion, plus elle prend d'empire et plus on a de peine à lui résister. Né faible, vous vous êtes affaibli encore par le péché. Né malade, vous avez vous-même aggravé votre maladie. Pouvez-vous dès lors vous étonner si tout vous pousse avec une extrême violence à des choses déraisonnables, contraires au vrai bien? Ne soyez donc pas surpris d'avoir comme faim et soif du péché. Cela vous vient, premièrement, d'Adam, deuxièmement, de vous-même, troisièmement, du démon qui attise le feu de vos mauvais désirs, quatrièmement, du monde qui vous fournit l'occasion de mal faire, cinquièmement, des scandales dont la terre est remplie. N'en soyez pas surpris, mais reconnaissez que vous êtes bien faible, bien porté au mal, bien enclin à pécher par violence, exaltation, pusillanimité, rancune, orgueil, paresse surtout. Cet appétit déréglé, aveugle, presque impérieux que vous ressentez pour le mal, vous explique pourquoi vous avez de la peine à pratiquer la mortification. Si vous y pensez bien, vous verrez que c'est là un des pires défauts de votre nature, affaiblie et déréglée. Il vous en coûte de faire pleurer, et si vous mortifiez vos sens, ils pleurent. Il vous en coûte de faire souffrir, et si vous mortifiez votre cœur, il souffre. Vous ne savez pas refuser ce qu'un enfant demande, et votre cœur vous harcèle de ses incessants désirs, lui, enfant chéri. De plus, c'est votre propre corps et votre plus intime compagnon d'exil que la mortification attaque et fait gémir. L'ennui qui vous en revient n'en est que plus grand, plus sensible et plus poignant. Voilà donc le grand mal. Le péché a d'abord brisé le gouvernail de notre nature, puis il nous a enlevé la force de remettre ce gouvernail. Il nous a fait deux torts immenses. Premièrement, il nous a donné un poison qui nous enfièvre pour le mal. Deuxièmement, il nous a rendu odieux le contre-poison qui doit nous guérir. Et dans ce lamentable état, que deviendrions-nous si Dieu n'avait pitié de nous? Si la grâce n'était pas offerte à notre volonté pour lui rendre le pouvoir de brider nos passions déchaînées. En vain cependant aurions-nous étudié pourquoi la mortification nous déplaît instinctivement et vainement scruterions-nous cette vieille plaie originelle si nous négligeons d'implorer maintenant le secours de notre médecin Jésus. Prière. Venez à moi, ô doux et charitable Sauveur. Passez sur le chemin où j'ai été laissé à demi mort de passion. Arrêtez-vous près de moi. Non, ne détournez pas vos yeux de mes plaies. Elles toucheront votre cœur, et vous verserez sur mes blessures l'huile et le vin de votre grâce, et je revivrai pour vous ressembler, pour vous aimer, pour vous servir et pour ne jamais mourir à votre amour. Ainsi soit-il. Résolution. Cherchez dans le nouvel Adam une grâce et une force supérieure à celle perdue dans le premier.